En cet instant précis, à l'heure où je vous parle, l'Église de Jésus-Christ, nous, mes frères et mes sœurs, nous nous trouvons au milieu d'un combat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous nous trouvons au milieu d'un combat. Il y a un bombardement de différents courants de pensée, du plus bizarre au moins bizarre, du plus subtil au plus grossier, dans nos milieux chrétiens. Autour de nous, dans différentes dénominations, donc qui sont pas spécialement évangéliques, mais comme dans nos dénominations évangéliques, il y a toutes sortes d'idées nouvelles qui surgissent, toutes sortes de doctrines qui surgissent aussi, de choses nouvelles, plus ou moins conséquentes, et parfois ça sépare même toute une branche de l'autre de l'Église de Jésus-Christ. Des nouvelles manières de concevoir la vie chrétienne où la grâce de Dieu font rage aujourd'hui. Et une de ces manières, un de ces courants qui fait rage aujourd'hui, notamment aux États-Unis, s'appelle l'hypergrâce. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. En anglais, c'est hypergrace, quelque chose comme ça. Ça fait deux fois que je parle anglais ici et pourtant on n'est pas en Angleterre, quoi. Bon, c'est pas grave. L'hypergrâce. C'est un courant qui vient des États-Unis. Qu'est-ce que c'est l'hypergrâce? Bien sûr, ceux qui prônent l'hypergrâce, ils disent pas qu'ils sont sous l'hypergrâce, hein. Ils disent qu'ils sont sous la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est l'hypergrâce? La grâce, c'est une grâce, quand on est sauvé, quand on croit en Jésus-Christ, c'est une grâce qui ne remet plus rien en question. On est sauvé, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut dans notre vie. Pas besoin de changer de vie. Pas besoin de marcher en nouveauté de vie. On peut même continuer à faire ce qu'on a fait et ce qu'on a toujours fait. Peut-être les adhérents d'une telle grâce diraient « Oh ben lui, il est comme ça et puis voilà, c'est tout. Il changera pas. » Et puis la grâce de Dieu couvre tout, le sang de Jésus couvre tout. L'Église de Jésus-Christ doit se battre. Elle doit se battre en réponse à toutes ces pensées qui viennent la percuter quelque part. Et aujourd'hui, j'aimerais nous amener à réfléchir à notre manière de vivre le combat dans l'armée du Seigneur. Car oui, dès que vous êtes né de nouveau, dès qu'on est né de nouveau, dès qu'on croit en Jésus-Christ, on entre dans un combat. On a un ennemi commun, Satan. Et puis on devient une cible de choix pour toutes sortes de personnes aussi, pour le monde aussi, d'une certaine manière. Alors, on est dans une série estivale et on va essayer de... Pendant tout cet été, on a essayé de présenter des livres bibliques pour donner davantage envie de lire la Bible. Et j'espère que ça a fonctionné. Et j'espère que ça fonctionnera encore ce matin. Et on va justement lire aujourd'hui tout un livre biblique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On va lire tout un livre biblique. Alors ouvrez vos Bibles à 1 et 2 Chroniques. Non, je rigole, c'est pas vrai. Au livre des Psaumes. Non, ça prendrait 5 heures. On va ouvrir nos Bibles et on va lire l'épître de Jude. L'épître de Jude, c'est 25 petits versets, donc on va le lire ce matin. Et j'aimerais proposer ce titre de prédication qui explique l'épître de Jude. Ne sois pas surpris, mais comprends et combat le bon combat de la foi. Ne sois pas surpris, mais comprends et combat le bon combat de la foi. Alors on va lire Jude en entier, 25 versets. Et Jude, c'est juste avant Apocalypse, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est le petit livre avant Apocalypse. Je laisse le temps encore de fouiller à ceux qui ont leur Bible. Moi, je vais lire sur le projecteur ici. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et c'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Quel épître, hein? Waouh! Ça décoiffe, comme on dirait aujourd'hui, hein? Comme nous l'avons dit en introduction, l'Église est au cœur d'un grand combat. Un combat que finalement, elle n'a pas choisi. Mais ce combat, c'est une lutte qui se propose naturellement à elle, de par la nature de l'Esprit qui habite l'Église et de par la nature de l'Esprit qui habite le monde. Parce que l'Église de Jésus-Christ, elle est colonne et appui de la vérité, comme nous dit Paul ailleurs dans ses épîtres, et que le monde qui l'entoure est ténèbres, il y a une opposition naturelle entre l'Église et le monde. Et on voit que ce combat n'est pas nouveau dans l'Église. Ça date pas d'hier, comme on dit, hein. Mais dès que l'Église a vu le jour, l'opposition a vu le jour. Alors, ne sois pas surpris, mais comprends et combat le bon combat de la foi. Car premièrement, j'aimerais proposer un premier point, tu possèdes un trésor convoité et attaqué. On voit que Jude, frère de Jacques, va écrire, comme on le voit au verset 1, à ceux qui sont appelés en Dieu, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Et il désirait vivement écrire à cette lettre afin de les exhorter à combattre. Et ce combat, on le voit en Jude, va se concentrer sur quelque chose d'important. Les frères et les sœurs qui constituent l'Église ont en leur possession quelque chose de merveilleux. Nous avons quelque chose en notre possession de merveilleux. Alors ce matin, je vais l'appeler ce joyau. Hein, vous voyez ce que c'est un joyau? C'est un gros bijou, je ne sais pas, quelque chose qui a vraiment de l'importance. Ce joyau, c'est la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Et on voit ça au verset 3. Ce sont en fait les vérités enseignées par les apôtres. La vérité de la parole de Dieu. En fait, ce véritable joyau comporte plusieurs facettes. Vous voyez, c'est comme un bijou à plusieurs facettes. Et l'une de ces facettes, ici, dans l'épître de Jude, va être complètement attaquée. Et c'est la grâce. Au verset 4, les ennemis, les hommes impies, transforment la grâce de Dieu en dérèglement et renient Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est une grâce transformée? Une grâce transformée en dérèglement. Eh bien, j'aimerais qu'on regarde ici, un peu plus dans le texte en Jude, et qu'on voit qu'est-ce que ces hommes impies se permettent sous la grâce de Dieu, quelque part. Premièrement, au verset 8, ils souillent leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. En fait, ces ennemis se livrent à toutes sortes d'impuretés. Ils méprisent les autorités mises en place dans l'Église, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils en viennent à mépriser les gloires célestes, les autorités célestes, anges, démons. Et Jude nous montre par une citation en fait d'un texte apocryphe qui se nomme probablement l'Assomption de Moïse, que même l'archange Michel, quand il a disputé le corps avec Satan, avec le diable, parce qu'il paraît que Satan dans la tradition voulait posséder le corps de Moïse pour de l'idolâtrie peut-être ou pour quelque chose d'autre, eh bien même l'archange Michel, même une autorité céleste, n'a pas osé porter de jugement injurieux contre Satan. Elle lui a simplement remis entre les mains de Dieu en disant « Que le Seigneur te réprime ». Pourtant, ces ennemis impies, ils se permettent de parler des autorités célestes d'une manière injurieuse. Ils prennent des libertés. Deuxièmement, on voit qu'ils suivent la voie de Caïn et de Balaam et de Corée. Ils marchent en fait dans l'erreur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Caïn. Vous vous souvenez de l'histoire de Caïn? Caïn a offert un sacrifice qui déplaît à Dieu. Et puis, il a été jaloux de son frère, qui lui a offert un bon sacrifice, entre guillemets. Jude veut peut-être dire ici que ces hommes impies ont une certaine manière d'adorer Dieu, à leur manière, comme Caïn a voulu faire ce qu'il voulait. Ces hommes impies ont peut-être adoré Dieu d'une drôle de manière et ils sont meurtriers tout comme Caïn. Balaam, dont l'Écriture parle en Nombre 22, il était attiré par l'argent. De même, ces hommes impies, sous la grâce de Dieu, sont attirés par l'argent et poussent les gens à être attirés par l'argent. Corée, dans l'Écriture, je ne sais pas si vous vous souvenez la révolte de Corée, c'est quelqu'un qui s'est révolté contre les autorités mises en place. Et de même, ces hommes impies, sous la grâce transformée de Dieu, ils se révoltent contre les autorités mises en place. On voit qu'ils se repaissent eux-mêmes, ils font impudemment bonne chère au verset 12. En fait, ils sont le contraire d'un bon berger. Ils se repaissent eux-mêmes, ils pensent qu'à eux. Ils tournent tout pour leur avantage. Ils mangent, ils boivent, ils vivent pour leur ventre. Et une dernière chose que ces hommes se permettent sous la grâce, ils se permettent d'être sans frein dans leurs paroles. Ils disent n'importe quoi. Voyez, ils flattent les gens, ils murmurent, ils se plaignent, ils critiquent. Ils ne voient rien de mal chez eux, mais tout chez les autres. J'aimerais nous faire réfléchir ce matin à quelque chose. Si la grâce transformée, je l'appelle la grâce transformée, si la grâce transformée en dérèglement permet une vie de péché, une vie dans la dissolution continuelle, sans sanctification, alors j'aimerais faire un renversement ici. La vraie grâce de Dieu, non pervertie, nous enseigne à ne pas pécher. Elle nous enseigne à ne pas pécher. Tite 2, versets 11 à 12 nous dit ceci. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaine et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse et la justice. » C'est un véritable trésor, la grâce. Et elle nous permet d'entrer dans les promesses du salut. Quelle image on a de la grâce? Qu'est-ce qu'on pense de la grâce de Dieu? Est-ce que c'est simplement quelque chose qui couvre tout et puis c'est tout, on ne doit plus changer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui nous aide à être transformé? Est-ce qu'on veut transformer la grâce de Dieu ou est-ce que c'est la grâce de Dieu qui nous transforme? Ça, c'est la vraie question. Le combat de la foi, c'est de garder pures les vérités concernant notre foi, tout simplement. Et la grâce en est une. Et elle fait l'objet d'un fameux combat. Aux États-Unis, ça fait rage. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Faites ce que vous voulez sous la grâce. Peut-être pas ici, attention, peut-être pas ici. Mais ici, c'est plutôt la pensée, quand on est tout seul chez soi. Qu'est-ce qu'on pense de la grâce de Dieu ? Mais Jude veut que ses auditeurs soient bien conscients d'encore une chose. Il dit, par deux fois, il va faire appel au souvenir des frères et des sœurs, en leur disant au verset 5 et au verset 17, « Je veux vous rappeler, je veux vous rappeler et souvenez-vous d'eux. » Alors, on va voir de quoi est-ce qu'il faut se souvenir selon Jude. Eh bien, selon Jude, « Souviens-toi, le mal n'est jamais resté impuni et les apôtres nous avaient prévenus. » Au verset 5, 6 et 7, Jude va citer trois exemples de l'Ancien Testament où des hommes et des femmes étaient présents dans le peuple de Dieu et ils étaient des impies. Le premier exemple se trouve dans le livre de l'Exode qui relate la sortie d'Égypte donc. Le deuxième se trouve peut-être dans Genèse 6 où il s'agit d'anges qui vont quitter leur position pour aller s'accoupler à des femmes humaines. Et le troisième exemple, c'est Sodome et Gomorre, qui se trouve en Genèse 19. Mais on va voir en plus en détail ces trois exemples du passé. Premier exemple, même après avoir été sauvé de l'Égypte et d'avoir vu les œuvres de Dieu, des hommes et des femmes du peuple d'Israël se sont rebellés et ont murmuré contre Moïse, contre Dieu. Et on voit ça dans le livre des Nombres, et c'est très impressionnant. Parce que pour finir, dans le livre des Nombres, toute une génération n'entrera pas dans le pays promis. Hommes, femmes, enfants, toute une génération d'Israélites ne vont pas entrer dans le pays promis à cause de leur dérèglement. Ils ont péri à cause de leur incrédulité, nous dit Jude, et ils sont en attente du jour du jugement. Dans le deuxième exemple que Jude donne, il s'agit d'anges déchus qui ont quitté leur position. Alors Jude fait peut-être référence à Genèse 6, où on parle de fils de Dieu qui ont quitté leur position, qui ont été voir les filles des hommes. Peut-être c'est pour s'accoupler, on ne sait pas trop. Mais Jude fait peut-être aussi référence à un texte apocryphe, encore une fois, qui se nomme le livre d'Enoch. Mais quoi qu'il en soit, retenons juste ceci. C'est à cause de leur rébellion que ces anges sont tenus enchaînés éternellement dans les ténèbres. De même que pour les Israélites, même les anges qui ont quitté leur position ont été enchaînés dans les ténèbres. Et troisième exemple, Sodome et Gomorre qui se livraient à toutes sortes d'impuretés, toutes sortes de choses dissolues. Et même les villes voisines, en un clin d'œil, elles ont été bombardées, si on peut dire, par le jugement de Dieu. Et dans ces trois exemples, le jugement de Dieu suit de près le mal qui a été commis. Le jugement de Dieu suit de près le mal qui a été commis. Jude continue au verset 7 en disant que ceci est donné en exemple. Ceci est donné en exemple pour que nous soyons premièrement certains de l'action de Dieu sur le mal. Dieu va juger le mal. C'est clair et net. Deuxièmement, afin que nous-mêmes ne nous laissions pas emporter à déplaire au Seigneur, qu'on ne transforme pas la grâce en dissolution. Et troisièmement, cet exemple est donné aussi pour les hommes impies. C'est un exemple préventif. Dieu dit, regardez, regardez ce qui se passe quand on commet le mal. Et j'aimerais citer à juste titre Romains 6, verset 23, qu'on connaît peut-être bien. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de secret. Mais le don gratuit de la vie en Jésus-Christ, la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est la vie éternelle. Le don gratuit, c'est la vie éternelle. Souviens-toi, le mal n'est jamais resté impuni. Alors Jude veut que ses auditeurs se rappellent encore d'une chose. Les apôtres l'avaient prédit. Et on lit ça au verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise. Tout était prédit pour que le peuple de Dieu soit bien armé. En fait, l'ignorance dans l'Église, comme dans la vie individuelle, dans notre vie individuelle, n'est pas une bonne chose. Et Dieu n'a jamais voulu qu'on soit ignorant des choses à venir. L'ignorance dans l'Église, c'est un danger. Et c'est pour ça que tous les dimanches, on est enseigné. C'est pour ça que tous les dimanches, il y a des gens qui enseignent et qu'on veut savoir, on veut connaître la parole de Dieu. Et Jude nous exhorte à un devoir de souvenir dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de nous souvenir, donc c'est de lire la parole de Dieu. Lire les écrits apostoliques, tout simplement. Souvenez-vous de ce que les apôtres ont dit. Comment est-ce qu'on va se souvenir? Eh bien, on va se poser quotidiennement devant les écrits apostoliques, devant la parole de Dieu. Se souvenir. Mais si Jude nous exhorte à nous souvenir des paroles apostoliques, c'est parce que ces paroles sont importantes pour nous. Elles sont importantes. Premièrement, elles s'accomplissent. La parole de Dieu s'accomplit. Les apôtres, comme le dit Jude, avaient prévu par l'Esprit Saint que ces hommes impies arriveraient. Ce n'est pas une parole mise en l'air. Ce n'est pas une parole qui ne s'accomplit pas. Éphésiens 2:20 nous montre l'importance de la parole apostolique. Nous avons été en tant qu'Église édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, pardon, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. On a été fondés sur le fondement des apôtres. Alors la parole des apôtres est un guide sûr, ce sont des paroles sur lesquelles l'Église s'édifie dans la foi et elles sont, comme dit Jude au verset 3, transmises aux saints une fois pour toutes. Aujourd'hui, il y a tellement de nouveautés dans le monde. Quand je vais sur YouTube, malheureusement, j'y vais assez souvent, et c'est un tort parce que je sais qu'il y a beaucoup de mauvaises choses sur YouTube. Quand je vais sur YouTube, il y a toujours cette pensée qui va faire le buzz. Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau pour gagner l'attention des gens? Qu'est-ce qui va fonctionner? En technologie, qu'est-ce qu'on va créer de nouveau? Il y a cette ambiance de la nouveauté. Et demeurer et s'asseoir sur des vérités acquises, c'est très mal vu aujourd'hui. C'est très mal vu. Il y a comme un dégoût du vieux système judéo-chrétien quelque part, qui prône toujours la même chose, ces vieilleries. Pourtant, Dieu nous dit ici de nous souvenir des vérités données une fois pour toutes et de nous y attacher, parce que ces paroles apostoliques, elles sont invivantes, elles sont vivantes et elles sont inspirées de Dieu. Jude va continuer au verset 20 et dire « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Encore une fois, se maintenir, ne pas sortir, se maintenir. Nous édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi, c'est de s'engager à bâtir notre vie sur le roc des vérités de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et toujours au verset 20, il y a une espèce d'équation. S'édifier nous-mêmes sur notre très sainte foi, donc s'attacher aux vérités de la parole de Dieu, et prier par le Saint-Esprit, c'est égal cœur, on pourrait dire. Égal à se maintenir dans l'amour de Dieu. Alors, j'aimerais juste éclaircir ici. Prier par le Saint-Esprit, c'est simplement prier. Tout chrétien peut prier par le Saint-Esprit. Hein. C'est prier l'âme éclairée, l'âme mue par l'Esprit-Saint, l'âme touchée par l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint nous aide dans nos prières. Simplement ça. Il inspire parce qu'on ne sait pas trop quoi demander. Ces hommes impies, ces gens qui transforment la grâce de Dieu en dissolution, ne se maintiennent pas, mais ils ont l'envie de sortir toujours, l'envie de sortir de ces vérités acquises. Ils n'y rentrent même pas, en fait. Ils n'y rentrent même pas. Alors, j'aimerais juste dire en dernier lieu que Jude va donner davantage de directives, et ça va peut-être nous parler encore davantage. Il va nous donner des directives pour nous aider, cette fois non pas nous-mêmes, mais les autres, dans l'Église, face à le combat pour la foi. Et ce sera mon dernier point ici. 4 attitudes à avoir avec les autres dans l'Église, dans la zone de combat. Ici, on est plus ou moins tranquille. Il n'y a pas une zone de combat, trop de turbulence. Mais comme je vous ai dit, ça peut très bien arriver dans nos pensées, à la maison tout seul, et puis on revient ici avec ce genre de nouvelles pensées. Et on peut, malencontreusement, influencer ses frères, ses sœurs. On est quand même, soyons dans la prévention, on peut être dans la zone de combat. La foi, c'est un combat. 4 attitudes à avoir avec les autres dans l'Église, dans la zone de combat. Jude dit au verset 22 et 23, et je vais prendre cette fois la version Summer qui est plus correcte, « Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres encore, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. En faisant cela, en fait, Jude va définir trois sortes d'attitudes envers trois sortes de personnes qui se trouvent dans l'Église. Premièrement, il y a celui qui doute. Premièrement, il y a celui qui doute au verset 22. Cette personne, vous savez, c'est un frère, peut-être nouvellement né de nouveau. Il est à la maison, il est sur YouTube, on va dire cela, et il entend la doctrine de la grâce transformée de Dieu. Il est face à des hommes impies, déguisés en brebis, qui lui disent « Mais tu peux tout faire en Christ, vas-y !» Et puis il se met à douter. Il se met à douter parce que le Saint-Esprit lui dit « Ben non, là il y a un hic, c'est pas normal. » Et puis ce jeune homme, on va dire ça, revient à l'église d'Otigny. Et puis il parle à son frère et il dit « Ouais, tu sais qu'en Christ on peut tout faire. On peut se permettre toutes sortes de choses. » Quelle attitude devra avoir le frère face à cette personne? Il devra avoir compassion d'une telle personne. Il devra l'aider à écouter la vérité, peut-être lire la Bible avec lui, pourquoi pas, lire l'épître de Jude, encore mieux, l'aider, mais surtout pas brandir des versets bibliques et dire « Oh, mais t'es fou! Qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es malade, toi !» Faut pas faire la chasse aux sorciers. Ça, c'est pas biblique. Aidons le frère qui doute, aidons le frère qui est un peu clochant des deux pieds. Et soyons certains que Jésus-Christ va l'aider à sortir de cela, parce que Jésus-Christ a une œuvre dans chacun de ses enfants. Deuxièmement, il y a celui qui n'est pas chrétien. Alors, dans l'Église, oui, il y a celui qui n'est pas chrétien, bien sûr. Cette personne, nous dit Jude, elle est dans le feu, puisque Jude nous exhorte à l'arracher du feu. En fait, cette personne, elle est non-croyante, parce que le feu, c'est symbolique du jugement de Dieu dans la Bible. Voyez, si Jude nous exhorte à l'arracher du feu, il veut simplement dire, ben, prie pour qu'il soit sauvé. Une attitude à avoir, ben, c'est lui témoigner de Jésus. Voilà, il y a un non-croyant dans l'assemblée qui ne croit pas. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire pour l'arracher au feu? On va lui parler du Seigneur, de ce qu'il a fait dans notre vie. On va lui dire la vérité dans l'amour. On va lui dire, viens à la foi, mon ami. Christ est mort pour que nous ne soyons pas jugés. Réconcilie-toi avec Dieu. Car Dieu ne laissera pas le mal impuni. Tu es pécheur. Nous lui disons la vérité. Et à ce moment-là, vous pouvez lui donner la prédication de Benjamin van Gansbeek sur l'épître de Jude. Hein. C'est sympa. Ça va, ça c'est... Témoigner, lui dire la vérité, voilà ce qui peut l'arracher au feu. Voilà ce qui peut l'arracher au feu. Troisièmement, il y a l'homme et la femme impies dans l'Église. Ça peut surprendre, mais il y a l'homme et la femme impies dans l'Église. Pour eux, il faut toujours avoir de la compassion, mais avec crainte. Cette personne, elle est tellement contaminée par les fausses doctrines, si je peux dire, qu'il vaut mieux ne pas se laisser emporter à sa suite. Donc il vaut mieux avoir, comme on disait, il y avait un de mes professeurs qui disait à l'IPES, avoir une dalle d'écart avec les filles. Il disait, on ne pouvait jamais être trop proche des filles. Il vaut mieux avoir une dalle d'écart, mais avec compassion. C'est un peu bizarre à dire, mais... Jude les appelle au verset 13, à juste titre, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur impureté. Ayons compassion, mais ne désirons pas trop s'approcher, de peur de se souiller nous-mêmes. Et on connaît tous cette parole, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ben voilà. Quoi qu'il en soit dans l'Église, vivons sous le regard de Dieu, en zone de combat. Vivons sous le regard de Dieu, dans sa crainte. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Quatrièmement, ce sera une dernière attitude qui formera la conclusion ici. Espérons et soyons dans l'assurance dans le combat pour la foi. Espérons et soyons dans l'assurance. Verset 24, « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. » Espérons en Dieu, car Dieu est capable. Dieu est capable, vous avez vu mon petit dessin là, ici, c'est génial ça. Dieu est capable, il a la force. Voilà une attitude pourtant qui pourrait nous manquer dans l'Église. Les chrétiens à l'époque de Jude, ils pouvaient se décourager face à l'ampleur de l'ennemi qui avait infiltré l'Église. Se décourager, mais enfin, qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, ici, Dieu nous dit que Dieu est capable. Dieu est capable de préserver les siens. Voyez, parfois on a une idée de l'Église comme un lieu safe, hein, un lieu où il n'y a rien qui se passe, un lieu où il n'y a pas de méchants, un lieu où c'est un peu un monde de bisounours, quoi, l'Église. Ah. Non, c'est loin de la réalité. Dans l'Église, il y a des hommes et des femmes impies aussi. C'est pourquoi il faut avoir de l'espérance et de l'assurance en Dieu, car Dieu est capable de nous préserver de chuter, nous préserver, nous garder jusque dans le jour où on le verra. Dieu peut, voilà quelque chose où mettre sa foi, Dieu peut. Comme le dit le verset 1 de l'épître de Jude, nous sommes appelés par Dieu, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact de cette parole? Appelés par Dieu, aimés en Dieu et gardés pour quelqu'un, gardés pour Jésus-Christ. Moi, je trouve ça merveilleux. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. J'aimerais qu'on prie ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous as donné les vérités apostoliques, ta parole, comme un lieu sûr où nous pouvons nous fonder, nous enraciner. Merci parce que tu nous aides quotidiennement à ne pas transformer ta grâce, mais plutôt à nous laisser transformer par ta grâce. Merci Seigneur parce que tu désires qu'on puisse demeurer plutôt que de sortir, plutôt que chercher des choses qui chatouillent nos oreilles. Aide-nous à combattre Seigneur, personnellement, individuellement et en Église, aide-nous à combattre le bon combat de la foi. Garde-nous dans ces vérités soi-disant vieillottes, mais pourtant qui sont promesses de vie éternelle, joie pour notre âme, et un jour on te rencontrera, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Aide-nous à te suivre, Jésus-Christ, et que ta grâce nous aide. Amen.